Marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Enfin, vous serez tranquille et surtout, vous me rendrez justice. Écoutez et ne me confondez plus avec les autres femmes. J'ai mis fin à mon aventure avec Prévan. À présent, vous allez juger qui de lui ou de moi pourra se vanter. Le récit ne sera pas si plaisant que l'action. Aussi ne serait-il pas juste que, tandis que vous n'avez fait que raisonner bien ou mal sur cette affaire, il vous en revint autant de plaisir qu'à moi, qui y donnais mon temps et ma peine. Que vous êtes heureux de m'avoir pour amie. Je suis pour vous une fée bienfaisante. Vous languissez loin de la beauté qui vous engage, je dis un mot et vous vous retrouvez auprès d'elle. Vous voulez vous venger d'une femme qui vous nuit, je vous marque l'endroit où vous devez frapper et la livre à votre discrétion. En vérité, si vous ne passez pas votre vie à me remercier, c'est que vous êtes un ingrat. Je reviens à mon aventure et la reprends d'origine. Le rendez-vous donné si haut à la sortie de l'opéra fut entendu comme je l'avais espéré. Prévan s'y rendit. Et quand la maréchale lui dit obligeamment qu'elle se félicitait de le voir deux fois de suite à ses jours, il eut soin de répondre que depuis mardi soir, il avait défait 1000 arrangements pour pouvoir ainsi disposer de cette soirée. Au moment du souper, on parla d'une pièce nouvelle qu'on devait donner le lundi suivant aux Français. Je témoignai quelques regrets de n'avoir pas ma loge. Prévan m'offrit la sienne et j'acceptai. Le lundi suivant, je fus aux Français comme nous en étions convenus. Pour prolonger cette soirée qui réellement me plaisait beaucoup, j'offris à la maréchale de venir souper chez moi, ce qui me fournit le prétexte de le proposer à l'aimable cajoleur. Étranger dans ma société qui ce soir-là était peu nombreuse, il me devait les soins d'usage. Aussi, quand on alla souper, m'offrit-il la main. J'eus la malice en l'acceptant de mettre dans la mienne un léger frémissement et d'avoir pendant ma marche les yeux baissés et la respiration haute. J'avais l'air de pressentir ma défaite et de redouter mon vainqueur. Il le remarqua à merveille. Aussi le traître changea-t-il sur le champ de ton et de maintien. Il était galant, il devint tendre. De mon côté, je devins rêveuse, à tel point qu'on fut forcé de s'en apercevoir, et quand on m'en fit le reproche, j'eus l'adresse de m'en défendre maladroitement et de jeter sur Prévan un coup d'œil prompt, mais timide et déconcerté, et propre à lui faire croire que toute ma crainte était qu'il ne devinât la cause de mon trouble. Quand la maréchale annonça qu'elle allait se retirer, je m'écriai d'une voix molle et tendre « Oh Dieu, j'étais si bien là !» Je me levai pourtant, mais avant de me séparer d'elle, je lui demandai ses projets, pour avoir un prétexte de dire les miens. Là-dessus, tout le monde se sépara. Prévan me demanda de venir le lendemain matin et j'y consentis. Mais soigneuse de me défendre, j'ordonnai à ma femme de chambre de rester tout le temps de cette visite dans ma chambre à coucher, d'où vous savez qu'on voit tout ce qui se passe dans mon cabinet de toilette. Et ce fut là que je le reçus, libre dans notre conversation et ayant tous deux le même désir. Je lui fis à mon gré le tableau de ma vie intérieure et lui persuadai aisément que nous ne trouverions jamais un moment de liberté et qu'il fallait regarder comme une espèce de miracle celui dont nous jouissions, puisqu'à tout moment on pouvait entrer dans mon salon. Je ne manquais pas d'ajouter que tous ces usages s'étaient établis parce que, jusqu'à ce jour, ils ne m'avaient jamais contrarié. Et j'insistais en même temps sur l'impossibilité de les changer, sans me compromettre aux yeux de mes gens. Ce coup de théâtre passé, nous revînmes aux arrangements. Au défaut du jour, nous nous occupâmes de la nuit. Mais mon Suisse devenait un obstacle insurmontable, et je ne permettais pas qu'on essayât de le gagner. Je convins avec candeur que j'avais bien un escalier dérobé qui conduisait très près de mon boudoir, que je pouvais y laisser la clé et qu'il lui serait possible de s'y enfermer et d'attendre, sans beaucoup de risques, que mes femmes fussent retirées. Et puis, pour donner plus de vraisemblance à mon consentement, le moment d'après, je ne voulais plus, je revenais à consentir qu'à condition d'une soumission parfaite, d'une sagesse. Enfin, je voulais bien lui prouver mon amour, mais non pas satisfaire le sien. Le jour fatal arrivé, ce jour où je devais perdre ma vertu et ma réputation, je donnai mes instructions à ma fidèle Victoire, et elle les exécuta comme vous le verrez bientôt. Cependant, le soir vint. J'avais déjà beaucoup de monde chez moi quand on y annonça Prévan. Je le reçus avec une politesse marquée, qui constatait mon peu de liaison avec lui, et je le mis à la partie de la maréchale comme étant celle par qui j'avais fait cette connaissance. À minuit, les parties finies, je proposai une courte macédoine. J'avais le double projet de favoriser l'évasion de Prévan et en même temps de la faire remarquer, ce qui ne pouvait pas manquer d'arriver vu sa réputation de joueur. J'étais bien aise aussi qu'on pût se rappeler au besoin que je n'avais pas été pressée de rester seule. Le jeu dura plus que je n'avais pensé. Il finit pourtant et chacun s'en alla. Pour moi, je sonnais mes femmes, je me déshabillais fort vite et les renvoyais de même. Me voyez-vous, vicomte, dans ma toilette légère, marchant d'un pas timide et circonspect, et d'une main mal assurée, ouvrir la porte à mon vainqueur? Il m'aperçut. L'éclair n'est pas plus prompt. Que vous dirais-je? Je fus vaincu, tout à fait vaincu, avant d'avoir pu dire un mot pour l'arrêter ou me défendre. Il voulut ensuite prendre une situation plus commode et plus convenable aux circonstances. « Écoutez-moi, lui dis-je, vous aurez jusqu'ici un agréable récit à faire aux deux comtesses et à mille autres. Mais je suis curieuse de savoir comment vous raconterez la fin de l'aventure. » En parlant ainsi, je sonnais de toutes mes forces. Il n'avait encore que balbutié quand j'entendis Victoire accourir et appeler les gens qu'elle avait gardés chez elle, comme je le lui avais ordonné. Là, prenant mon ton de reine et élevant la voix, « Sortez, monsieur !» continuai-je, « et ne reparaissez jamais devant moi » Là-dessus, la foule de mes gens entra. Tous accompagnèrent le malheureux chevalier avec bruit et scandale comme je le souhaitais. La seule Victoire resta et nous nous occupâmes pendant ce temps à réparer le désordre de mon lit. Mes gens remontèrent, toujours en tumulte, et moi, encore tout ému, je leur demandais par quel bonheur ils s'étaient encore trouvés levés. Et Victoire me raconta qu'elle avait donné à souper à deux de ses amis, qu'on avait veillé chez elle, et enfin tout ce dont nous étions convenus ensemble. Je les remerciai tous et les fis retirer, en ordonnant pourtant à l'un d'eux d'aller sur le champ chercher mon médecin. Il vint en effet, me plaignit beaucoup et ne m'ordonna que du repos. Moi, j'ordonnai de plus à Victoire d'aller le matin de bonne heure bavarder dans le voisinage. Tout a si bien réussi qu'avant midi, et aussitôt qu'il a été jour chez moi, ma dévote voisine était déjà au chevet de mon lit pour savoir la vérité et les détails de cette horrible aventure. J'ai été obligée de me désoler avec elle pendant une heure sur la corruption du siècle. Enfin, avant 5 heures, j'ai vu arriver à mon grand étonnement le maréchal. Il venait, m'a-t-il dit, me faire ses excuses de ce qu'un officier de son corps avait pu me manquer à ce point. Il ne l'avait appris qu'à dîner et avait sur le champ envoyé ordre à Prévan de se rendre en prison. J'ai demandé grâce et il me l'a refusée. Alors j'ai pensé que comme complice, il fallait m'exécuter de mon côté et garder au moins de rigides arrêts. J'ai fait fermer ma porte et dire que j'étais incommodée. J'oubliais de vous dire que Belleroche est outrée et veut absolument se battre avec Prévan, le pauvre garçon. Heureusement, j'aurai le temps de calmer sa tête. En attendant, je vais reposer la mienne qui est fatiguée d'écrire. Adieu, vicomte. Ce 25 septembre.